Bonjour.
Les réticences américaines n'ont pas dissuadé Israël. Il y aura bien une riposte après l'attaque iranienne. L'armée israélienne se prépare à répliquer. Alors, la réponse paraissait évidente pour toute la classe politique israélienne. Pourtant, on sent qu'il y a une division sur la forme que doit prendre cette réponse, Paul.
Ah oui, la situation d'Israël est extrêmement compliquée parce que les mollahs iraniens ont mis Benjamin Netanyahou dans un dilemme quasi insoluble. Soit il riposte, et auquel cas il risque l'isolement militaire, l'isolement politique. Les Américains, Joe Biden, il est déjà en train de gérer sa présidentielle et il a un certain nombre d'enjeux internes, notamment son électorat démocrate qui est assez fragmenté sur la question, qui va pas bouger d'une oreille. Ça, c'est la première option, donc isolement militaire pour Benjamin Netanyahou. Ou alors, il va effectivement à la désescalade, et aller à la désescalade, ça peut sonner comme un aveu de faiblesse, et on va dire, eh bien, ça sonne comme une défaite, et Israël, face à cette attaque de l'Iran, eh bien, baisse la garde. Donc, dans les deux cas, si vous voulez, il y a beaucoup à perdre. Mais si Israël va à la riposte, alors bien sûr, il faut voir de quelle façon. Je n'imagine pas une riposte, si vous voulez, de la même ampleur et de la même nature que l'attaque de l'Iran, à savoir 300 et quelques drones et missiles balancés sur le territoire iranien. On peut imaginer des attaques ciblées, etc. Mais nous entrerions dans un engrenage tellement, si vous voulez, terrible qu'on ne sait pas quelle peut être l'issue d'un tel engrenage. Et par conséquent, les pays arabes de la zone qui sont des alliés de l'Occident, je pense à l'Arabie Saoudite, au Koweït, à la Jordanie, ne suivront pas, naturellement, Israël dans une telle riposte. De la même manière, les puissances occidentales ne suivront pas Israël dans cette riposte. Donc, l'isolement serait total et je pense que les intérêts israéliens ne sont pas d'aller à la riposte.
C'est ça, Jean-Claude Dacier, la pression internationale est telle que la marge de manœuvre d'Israël est réduite?
Il y a de ça. Et je pense que Netanyahou et ses collaborateurs du gouvernement extrémistes quand même pour le ministre de la Défense et quelques autres, doivent hésiter sur la riposte, oui, sans doute, mais laquelle? La situation de Netanyahou est compliquée politiquement. Il a besoin, on ose à peine le dire, mais il a besoin de la guerre pour rester au pouvoir. Il a besoin de prolonger le conflit pour rester au pouvoir. Si la guerre devait s'interrompre demain, ce qui n'est probablement pas le cas, on ne sait pas ce qu'il adviendrait politiquement de lui. Il a aussi besoin de l'Amérique. Et Biden lui a très clairement fait savoir qu'il était hors de question de riposter, trop fermement, de prendre une décision qui d'escalade. Après, on ne sait plus très bien où ça va. Moi, Netanyahou, je lui ai rendu hommage, je crois que c'était avant-hier, parce que je crois que son opération Iran a magnifiquement bien marché.
Oui.
Bon, il a bombardé une des succursales
de l'ambassade iranien,
le consulat iranien à Damas. Et il savait quelle serait la suite. Il ne pouvait pas se passer autrement qu'une riposte de l'Iran spectaculaire. Mais l'Iran a complètement échoué. Alors, on dit qu'ils ont même prévenu les Américains, que tout le monde savait, etc. Mais néanmoins, ils ont balancé, quoi, 300, 250 ou 300 à la fois drones et missiles. Et il s'est rien passé. Il y en a la moitié d'un qui a dû tomber sur le territoire israélien. Donc c'est un vrai succès pour Netanyahou. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les Européens l'appellent pour lui dire
pour le
calmer le jeu.
Pour le dissuader.
Sa tentation est sans doute aussi de geler la situation à Gaza, parce que c'est ça aussi l'objet de l'opération, hein, Iran. Il gèle les exigences et les incertitudes de la situation à Gaza. Et puis il détourne l'attention, il éclaire plein feu, il regarde, il essaie d'enclencher un mouvement compliqué en Iran.
Justement, quelles sont les réponses possibles de Israël à l'Iran? On va écouter les trois scénarios envisagés par le spécialiste, le général Jean-Paul Paloméros. Les trois réponses possibles à l'Iran.
Une première riposte qui serait des attaques cyber. Pour désorganiser en quelque sorte l'Iran. Ça a été fait par le passé. J'y crois pas trop, ce n'est pas assez visible, ce n'est pas assez concret pour la population israélienne. Deuxième élément, ce serait les frappes contre le Hezbollah, allié de l'Iran. Ça, c'est plausible parce que c'est directement lié à l'Iran sans avoir les répercussions d'une attaque directe sur l'Iran. Troisième scénario, c'est évidemment d'aller frapper en Iran. Là, il y a des sous-scénarios, soit des bases qui abritent les moyens qui ont été envoyés contre Israël, ou alors là, ça serait vraiment l'escalade la plus forte, ça serait les attaques contre des sites nucléaires iraniens. C'est pas totalement impensable.
Mais on voit quand même que les Israéliens ont le choix.
Bien sûr, oui. Enfin, oui, le troisième choix, scénario, oui. Il est quand même
l'Iran est à 3000 kilomètres sans l'Amérique. Israël peut pas attaquer l'Iran seul, c'est impossible.
Parce que ils ont besoin des Américains, notamment pour protéger leur front avec le Liban, enfin avec le Hezbollah.
Et puis les Iraniens ont enterré leurs dispositifs nucléaires. Tout est enterré, bien sûr. Très profondément.
Bien sûr. Jean-Claude Dassy, il n'y a pas d'armes qui pourraient parvenir justement à atteindre ces cibles nucléaires enterrées.
Je suis pas un expert, mais je ne le crois pas. Et puis franchement, il faut non seulement c'est une énorme opération, et puis je suis pas sûr que politiquement Netanyahou soit prêt à franchir le pas. Il a envie de se faire l'Iran. C'est l'incertitude pour lui et c'est politiquement tout bénéfice pour lui. Sauf que c'est pas simple à faire et qu'il est déjà engagé dans une situation très compliquée à Gaza, et je parle pas de la Cisjordanie.
Il peut peut-être pas ouvrir de nouveaux fronts, effectivement, avec ce qui se passe à Gaza, mais bon, on se rappelle qu'il n'avait pas attaqué le 8 octobre, il avait pris son temps, et là, le chef d'état-major de l'armée israélienne dit on se prépare.
Ils ont tout intérêt à prendre leur temps. On a bien posé, effectivement, toute la complexité de la situation. Il est difficile pour Benjamin Netanyahou de jouer les va-t-en-guerre et de dire comme ça, eh bien, on va aller frapper des cibles stratégiques sur le territoire iranien, sachant que ça dégarnirait un certain nombre d'autres fronts, à commencer par celui avec le Hezbollah, qui, sans l'appui stratégique et militaire des Américains, est une opération qui est rendue impossible. Ensuite, sur la victoire du Dôme de Fer dont parlait Jean-Claude, je suis d'accord, c'est une prouesse extraordinaire, c'est 280 avions de combat, Israël, donc 100 de plus que la France, important de le noter là aussi, donc une défense aérienne de très haut niveau, la coalition qui a aidé. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'Iran n'a pas envoyé probablement ses meilleures armes, disait aujourd'hui et hier que l'Iran en avait encore beaucoup sous la pédale, si je puis dire, et qu'ils avaient en arrière un certain nombre d'armes beaucoup plus performantes que les missiles ou les drones à $2000 qu'ils ont envoyés, qui, pour avoir été interceptés, ont dû être interceptés par des missiles de très haute technologie qui, eux, ont coûté extrêmement cher. Donc, les Iraniens jouent avec les limites, testent leur capacité de défense et œuvrent principalement à intimider l'adversaire et à montrer à l'Occident que c'est une grande puissance militaire qui peut être extrêmement déstabilisante pour la zone.
Paul Melun pense que, en fait, l'Iran a gesticulé.
Jean-Claude Dassier, on prolonge le débat, ce sera juste après le rappel des titres.